Nous avons aujourd'hui donc à examiner dans la lignée du dernier conseil municipal où nous avions débattu des orientations budgétaires, donc du budget primitif. Nous sommes le 1er avril, ce n'est pas un poisson, mais néanmoins c'est pour nous la promesse aujourd'hui de pouvoir continuer ce projet que nous portons pour continuer à faire vivre cette ville dans un contexte bien évidemment particulier comme celui que nous connaissons, et il nous appartient bien entendu eh bien d'en tenir compte et de faire preuve d'adaptabilité, je l'évoquais tout à l'heure, pour nos actions au quotidien, mais là il s'agit aussi de faire preuve d'adaptabilité pour cette confection de l'exercice budgétaire à venir. Et donc je passe le micro à notre adjoint aux finances, et comme d'habitude nous allons procéder à quatre mains, voilà, ou à deux voix.
Merci. Alors tout d'abord un petit clin d'œil parce qu'on est le 1er avril, donc vous voyez que même le poisson d'avril est resté masqué, donc à respecter les normes sanitaires. Donc pour vous faire un petit sourire pendant cette période un peu perturbée, on s'est permis de vous mettre un petit poisson d'avril, voilà. Bien. Plus sérieusement, on va commencer par donc l'introduction que je voudrais vous dire pour vous résumer un petit peu les choses, puisque vous avez tous été destinés du rapport, et qu'on va un peu vous illustrer le rapport que vous avez reçu. Mais en préambule, je voudrais d'abord vous dire que nous avons bien sûr été perturbés par le coronavirus, notamment par les finances, puisque en fait compte, on a le centre de vaccination qui pèse un petit peu sur les finances, les protections pour les agents et la population qu'il a fallu acheter, les baisses de recettes, notamment la piscine, les locations, etc. Et on peut dire que le coût direct, on va dire matériel, plus désinfection, plus prime Covid, puisqu'il y a des primes Covid qu'on doit donner, ont coûté en 2020 120 000 euros, et que si on prend les autres dépenses, puisqu'il y a aussi les dépenses, c'est les recettes en moins, parce que c'est aussi, on ne va pas dire que c'est des dépenses, mais c'est quand même des recettes en moins. Donc on devrait arriver à peu près à 300 000 euros, quoi. Voilà. Donc pour que vous ayez un ordre de grandeur. Ensuite, quelles sont les modifications au niveau des finances? Eh bien, vous savez qu'il y a eu la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales, qui ne sera donc plus perçue par les communes. Le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui était auparavant perçue par le département, se retrouve maintenant sur la taxe foncière des particuliers du taux communal. Alors, ça ne changera rien pour les Montignens, puisqu'en fait, ce sera donc la colonne département qui passera dans la colonne département, et dans la colonne communale. Je pense qu'effectivement, il va y avoir pas mal de questions qui se poseront, parce qu'effectivement, du coup, le taux communal va monter. Mais la somme qui sera demandée aux contribuables montignens reste tout à fait identique. Alors, ce que je voulais vous rajouter, c'est que sur cette taxe d'habitation, donc les personnes qui, donc en 2020, il y a des personnes qui ne payaient plus la taxe d'habitation déjà, ça représentait à peu près 80%. En 2021, la réduction de cette taxe d'habitation, c'est de 30%. En 2022, ce sera de 65%, et en 2023, il n'y en aura plus du tout, donc on sera à zéro. Voilà, c'est un petit peu pour que vous ayez, parce que souvent on se pose la question, comment ça se passe, moi j'ai payé, je sais pas, j'ai pas trouvé que ça ait baissé, mais voilà un petit peu le calendrier des baisses qui va y avoir. Ensuite, qu'est-ce qui marque aussi ce budget 2021? C'est la fin des travaux de la restauration scolaire, bon, avec son redémarrage aussi après, donc qui va induire aussi des frais, la vente du quartier Élysée et le reversement d'une partie à l'État pour la clause de complément de prix, pas d'augmentation des taux, donc quand même une bonne nouvelle, et je voudrais préciser que ce budget a été fait non pas en se disant que l'année 2021 était terminée, mais en essayant de garder en fait des ressources et des finances pour pouvoir, réaliser un certain nombre d'opérations, de manifestations et tout, si la vie revient à une certaine normalité. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, le marché de Noël, par exemple, ben, c'est pas la peine, on le supprime. Par exemple, je donne cet exemple. mais on a gardé un certain nombre de manifestations en gardant l'espoir, parce que je pense qu'il faut qu'on donne quand même, qu'on ait gardé de l'espoir et qu'on ait un certain optimisme pour l'avenir. Sinon, ça va être compliqué. Voilà. Donc pour ça, c'était pour mes mots introductifs, et je voudrais passer donc maintenant au budget avec les chiffres. Donc vous voyez que les dépenses totales pour le budget 2021 est de 34 700 000, avec des dépenses d'investissement globales de 8 867 000, dépenses de fonctionnement de 22 330 000, l'intérêt de la dette de 600 000 et le capital de la dette et les cautions pour 3 100 000. Alors je vous rappelle que quand on fait dépenses totales, c'est fonctionnement et investissement. C'est pour ça qu'on a des chiffres qui sont importants. Les recettes, obligatoirement, sur le même montant, 34 700 000, avec les impôts et taxes pour 11 millions, les dotations de subventions pour 5 976 000, y compris là-dedans la compensation pour la taxe d'habitation, l'emprunt pour 2 250 000, les autres recettes qui sont en fait la cantine, la piscine, enfin toutes ces recettes qu'on a gardées avec un certain volume, mais pas très élevé. Ah oui. Excusez-moi. Des opérations comptables pour 8 092 000. Alors, comment est-ce qu'on peut comparer les choses? Alors, je rappelle toujours qu'on compare, dans tout l'exposé que je vais vous faire, les dépenses du BP 2020 et les dépenses du BP 2021. Ce n'est pas la comparaison avec le CA, donc qui est le CA qui est l'arrêté définitif des recettes. C'est toujours de BP à BP. Hein, voilà. Donc, les charges à caractère général. Donc, vous savez, en fait, les charges à caractère général, c'est ce qui fait tourner les services de la ville, hein, que ce soit les papiers, les crayons, toutes ces choses-là. Donc, il varie de 1,66%. Donc, 40 000 pour les charges à caractère général, 120 000 en moins pour les charges de gestion courante. Parce que, en fait, les charges de gestion courante, ce sont les subventions aux associations. Alors, avant qu'on pose la question, je vais donc vous dire qu'en fait, compte la politique, d'ailleurs, qui a toujours été un peu la nôtre, c'est-à-dire qu'on n'attribue pas de subventions à des associations qui ont déjà une trésorerie pléthorique. Et puis, d'autre part, il y a des associations comme l'Amicale du personnel et le Comité des fêtes qui, en fin de compte, l'année dernière, n'ont malheureusement pas pu faire des manifestations. Donc, l'argent qu'ils avaient, ils l'ont gardé dans leur trésorerie. Et donc, ils l'utiliseront cette année. Et s'il faut, on verra s'il faut après aménager les choses. Mais pour l'instant, on est parti comme ça. Voilà. Et puis, donc, après, sur les charges exceptionnelles, les charges financières, déjà, moins 50 000 euros. Donc, c'est en fait dû aux emprunts qu'on avait faits avec des faibles taux d'intérêt. Moins 64 500 sur les charges exceptionnelles de remboursement, c'est principalement une indemnité qui avait été payée sur un contentieux l'année dernière, donc on annule cette provision qu'on avait fait l'année dernière. Et puis, ce dont on a déjà parlé, les 500 000 euros au titre du reversement de l'État pour la vente des terrains militaires du quartier Élysée. Ensuite, les recettes totales de fonctionnement. Donc, bien évidemment, la plus grande partie correspond aux impôts et taxes. Autrement, vous avez les dotations et subventions reçues, donc toutes les subventions qui nous viennent de l'État et d'autres. L'atténuation de charges, c'est en fait les remboursements des frais de personnel pour maladie des atténuations de charges pour... pour ces choses-là. L'attribution, l'autre produit de gestion, les produits du domaine et le résultat reporté, puisqu'en fait, on est bien obligé d'intégrer pour équilibrer nos recettes. Donc, quelles sont les variations? Donc, 14 000 euros pour les produits du domaine, c'est-à-dire cantine, piscine, pour lequel on a compté un certain nombre de recettes. Ensuite, vous avez plus 44 000 pour les impôts et taxes et moins 179 000 pour les dotations et participations reçues. En fait, c'est un jeu d'écriture, parce que, en fait, comme je vous ai expliqué, la taxe d'habitation était perçue par le département et donc est maintenant versée à la commune. Et c'est un jeu d'écriture pour compenser, en fait, J'avais pas tourné. Bon. Pour compenser, en fait, ces reversements. Ensuite, moins 34 000 sur les autres produits de gestion, moins 25 000 sur les remboursements sur rémunération, et plus 101 000 pour les autres recettes, dont une annulation de provision qui a été passée l'année dernière pour la Samiram, qui a donc été liquidée en janvier 2021, et donc la provision que nous avions mise dans l'exercice 2020 est annulée cette année pour l'exercice 2021. Ensuite, les dépenses totales d'investissement. Vous avez 11 770 000. Alors, il faut savoir que le chiffre paraît important, mais en réalité, le montant des dépenses réelles d'investissement s'établit à 2 920 000 par rapport à 5 millions l'année dernière. Donc, nous avons voulu, en fait, cette année, retrouver nos équilibres après des années d'investissement importantes, puisque nous avons fait la salle Europa, nous avons fait la piscine, nous avons fait un certain nombre d'investissements lourds des dernières années. Et donc aujourd'hui, on revient de nouveau à un rythme un peu plus, disons, correspondant au volume de la commune de Montigny. Donc vous voyez comment se répartissent les différentes dépenses, donc dans le scolaire, dans les voiries, l'aménagement urbain, la dette qui est de 3 100 000, les autres opérations, puis la culture et l'Europa. Ensuite, les recettes totales d'investissement, donc pour 11 770 000. Donc vous avez l'emprunt pour 2 250 000. Alors l'emprunt, en fait, se décompose de deux choses, puisque nous avions l'année dernière emprunté avec un report cette année de 1,8 million. Donc, et le complément que nous devrions faire cette année est de 450 000 euros. Ensuite, vous avez les subventions. Alors, les subventions sont de 353 000. Elles sont, d'une part, les menuiseries extérieures à Marc-Sannier et pour 80 000 euros. Le restaurant scolaire pour 206 000 euros. Ça, c'est des subventions qui ont été données par l'État dans le plan de, je sais plus comment on l'appelle, le plan d'aménagement ou le plan, on va dire, de relance des investissements communaux. Et 67 000 euros de la région pour également le restaurant scolaire. Donc, on retrouve aussi dans ces recettes, qu'on a vu tout à l'heure dans les dépenses, qu'on avait 500 000 du quartier Élysée qu'on redonnait à l'État. Et là, on retrouve dans ces recettes les 1 million qui seront la vente de le quartier Élysée. Ensuite, vous aurez l'autofinancement pour 4,3 millions et l'emprunt dont j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, les dépenses d'équipement, je vais laisser Jean-Luc en parler. Et puis, donc il va vous donner un petit peu le détail de ces dépenses d'investissement, donc que je rappelle, 2 920 000 pour 5 050 000 l'année dernière.
Voilà. Ouais, merci beaucoup. Donc voilà, dans la concrétisation de ces dépenses d'équipement, donc je rappelle, la dépense principale, c'est le nouveau restaurant scolaire qui va d'ailleurs s'achever très prochainement et qui permettra donc d'accueillir les premiers élèves, on l'espère, bien évidemment, dans les meilleures conditions possibles, début juin. Donc voilà, pour un montant donc de 1 285 000 euros, report compris. Nous avons également inscrit 1 million d'euros sur le produit de la cession au groupe Eiffage des terrains militaires du quartier Élysée, donc c'est en recette d'investissement. Un financement complémentaire par emprunt de 450 000 auquel s'ajoutent les 1,8 million d'emprunts reportés, soit 2 250 000 pour l'exercice donc 2021. Et donc la commune devrait continuer à se désendetter donc sur cette année. Donc vous voyez une annuité donc de la dette qui est estimée à 3,7 millions, intérêt 600 000, capital 3,1 millions, avec donc une estimation donc à 1036 euros par habitant, et nous pour comparaison donc 1032 euros par habitant pour la moyenne de la strate. Donc nous pour résumer en fait si vous voulez ce budget, Ce budget, c'est un budget d'anticipation et de raison. C'est aussi un budget atypique, vous vous en doutez bien, dans le contexte que nous connaissons. On maintient les taux dans un contexte aussi particulier, donc de suppression de la taxe d'habitation, et donc il s'agit bien évidemment de prévoir que les opérations puissent continuer. Il s'agit également de poursuivre notre désendettement, comme je viens de l'indiquer, et en ce qui nous concerne, donc on s'en était parlé lors du dernier conseil municipal. Donc, il s'agissait pour nous de préparer les conditions pour les grands investissements du mandat sur la médiathèque, Satkinsich, Marsannier, par exemple. Enfin, voilà. Budget atypique, bien entendu, car nous prenons en compte les contraintes liées à la crise Covid, avec l'ensemble de ces prestations que nous avons évoquées tout à l'heure, et notamment de la mise en place du centre de vaccination, et donc c'est aussi dans ce contexte-là l'opportunité de pouvoir réfléchir à la fois sur l'avenir tout en essayant donc de faire face à ce contexte si particulier qui permet néanmoins d'accompagner les personnes et les plus défavorisés en particulier. Et comme vous allez le voir tout à l'heure à travers sa déclinaison sur les différentes compétences qui sont les nôtres, sur les différents secteurs d'activité des adjoints et de vous tous, puisque nous faisons partie les uns les autres de commissions qui œuvrent au quotidien à côté des forces vives de la commune. Nous avons évidemment fait le choix de maintenir la voilure sur notamment le soutien au monde culturel, sportif, socio-éducatif, sur le social, bien entendu, ça va de soi. Enfin, bref, sur toutes les grands agrégats qui constituent donc la teneur du budget, nous avons voulu présenter aussi des ferments de stabilité, d'être aussi dans une certaine façon d'être sur quelque chose de raisonnable, mais en même temps d'incarner une forme de résilience et aussi donc d'espoir pour permettre de préparer la suite, car évidemment c'est notre obligation à nous toutes et tous. Donc voici un petit peu, donc en remerciant donc Raymond Weinheimer et nos services pour dans ce contexte difficile donc que nous connaissons, avoir permis néanmoins de confectionner cet exercice budgétaire, et donc je me permets bien entendu de faire circuler la parole. Donc qui souhaite s'exprimer sur ce budget? Alors monsieur Somny, madame Volmer. Alors monsieur Somny, vous avez le micro.
Bonjour monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonjour. Content de voir que tout le monde est en bonne santé. Alors ça sera simple ce que j'ai à dire. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de 300 000 euros de surcoût sur notre commune. J'aurais tendance à dire que gérer une commune, c'est prévoir. Donc, mais bon, on ne peut pas tout prévoir non plus. Donc ça, je n'irai pas trop sur ce domaine-là. Mais Montigny, en ce qui me concerne, Montigny continue d'avancer dans l'endettement. Votre slogan aux dernières élections municipales était « Montigny avance ». Nous ne sommes donc pas surpris. En plus de l'insécurité physique que nous subissons, l'insécurité sociale fonctionne en binôme avec une crise sanitaire sans précédent. Il est indispensable d'orienter l'action municipale vers une gestion plus juste. Mais vous, monsieur le maire, vous suivez le gouvernement macroniste et les plans qui vont avec, d'ailleurs, comme la réforme de l'indemnité chômage qui, selon l'UNEDIC, affecterait 50% des bénéficiaires, donc des Montigniens. La précarité accrue des Montigniens les plus fragiles ne peut être comprise par des dirigeants qui gagnent 6 fois le SMIG. Les mesures d'austérité, ce n'est pas pour tout le monde. On nous demande encore plus d'efforts et il paraît de plus en plus évident que le modèle économique et de gestion surannée et obsolète de la commune est dépassé. Le droit de regard sur les investissements réalisés sur notre commune sera notre préoccupation première pour les mois à venir. Nous voulons des actions pour développer le localisme, circuit court et écologique, et soutenir l'emploi. Les moyens de sécurité divisés depuis 1965 en France, qui diminuent, avec de plus en plus de suspicions envers les forces de l'ordre, considérés comme un problème plus que comme la solution pour ramener la tranquillité publique dans notre ville. Au Rassemblement national, nous sommes plus que jamais aux côtés des Montigniens pour les soutenir et les défendre dans cette période difficile. Le budget de Montigny-lès-Metz pour 2021 est assez simple à comprendre. Je me permets de le décomposer très simplement en disant qu'il se décompose en recettes et en revenus. Donc les recettes, les impôts locaux, dotations d'État, revenus divers et les emprunts. Et les dépenses, donc les dépenses de fonctionnement. Donc ça, c'est vous qui gérez. Ainsi que les dépenses d'investissement, construction, équipements sociaux et sportifs, culturels, qui sont décidées directement par le conseil municipal. Donc par vous, monsieur le maire. Les dépenses qui concernent le remboursement des dettes de la commune. Parlons-en, l'endettement de notre commune. À chaque fois, je reviens avec ça. Et jusqu'à la fin de votre mandat, je reviendrai avec ça. Au 31 décembre 2020, l'endettement de la commune de Montigny-lès-Metz est arrêté à la somme de 22 900 000. Nous ne sommes même pas au niveau de 2017. En 2017, l'endettement était à 21 204 000. Sans compter, parce qu'on oublie toujours d'en parler, de la dette de Metz Métropole, que nous devons aussi assumer pour notre part. La dette par habitant est de 1 036 euros à ce jour, pour une population de 22 112 habitants. Celle-ci baisse en effet, monsieur le maire, mais en trompe-l'œil, parce que c'est pas la gestion de votre commune, c'est pas votre gestion qui est pour grand-chose dans cette baisse de la dette par habitant. Alors, je m'explique. La dette par habitant diminue car la population de Montigny-lès-Metz a augmenté avec 684 personnes en plus sur la commune en 2020. Je m'en réjouis, d'ailleurs. Ce n'est pas donc la bonne gestion de votre équipe et de vous-même qui fait baisser la dette, mais bien la répartition de celle-ci sur le nombre d'habitants qui augmente. La dette par habitant en 2020 s'établissait à 1 095 euros, mais pour 21 428 habitants. Depuis 2002, date de la prise de vos fonctions de maire à la commune de Montigny-lès-Metz...
2001.
Ah bah, excusez-moi, oui. Oui. La commune de Montigny-lès-Metz a plus augmenté sa dette par habitant que les communes françaises similaires, comme par exemple Agneau, Saint-Dizier, etc. Le remboursement des anciennes et nouvelles dettes ont un coût croissant au fur et à mesure que la commune contacte de nouvelles dettes. Les intérêts de la dette alourdissent les dépenses de fonctionnement. Vous l'avez dit très justement tout à l'heure, 600 000 euros. La dette par habitant a augmenté de 21,87% entre 2000 et 2014. 11,31% entre 2008 et 2013, par exemple, pour donner l'actif de votre travail. Pendant la même période, les communes françaises similaires ont vu leur dette par habitant augmenter de 1,87% en moyenne. Avec vous, Montigny avance bien dans la dette, monsieur le maire. C'est même la spécialité de votre règne. Comme bonne gestion, nous avons connu mieux. Même votre indemnité en 2020 a augmenté, avec une augmentation de celle-ci de 7 032 euros net sur l'année. C'est coûteux, ce sont les impôts des Montigniens qui financent l'ensemble. Je vous rappelle que vous avez été élu avec 3 224 voix sur 14 696 inscrits, donc 11 472 personnes n'ont pas voté pour vous. Il serait peut-être temps de penser à eux. Merci.
En tout cas, elles n'ont sûrement pas pensé à vous non plus, hein, j'imagine. Mais enfin, je vous laisse juge de. Je suis extrêmement surpris d'une telle expertise en matière budgétaire venant de votre part, qui brillait par votre absence dans les différentes commissions et en particulier à la commission des finances. Madame Vollmer. Vollmer qui a la parole.
Bon, je ne vais pas refaire le débat d'orientation, mais j'aurais quand même plusieurs remarques, questions, voire même des suggestions. Le budget qui, effectivement, qui évite de tanguer, mais qui voudrait aussi faire croire que l'on s'adapte à la crise que rencontrent les citoyens. C'est pas trop le cas, puisque, en tout cas, c'est ce qui nous différencie, puisqu'avec des recettes de cantine estimées à 330 000 euros, soit 1% du budget, la ville tarde à mettre en place des tarifs selon les revenus. C'est vraiment un manque de volonté de votre part, et cela, malheureusement, avec la complicité de socialistes qui ont jusqu'à la dernière mandature demandé la même chose, tombant ainsi dans une social-démocratie patronale, trahissant tout le travail qui a été fait précédemment. Je n'essaierai même pas de parler des autres élus, car depuis toujours, ils n'ont jamais rien demandé dans ce domaine. Avec l'installation de la nouvelle cantine, il est souhaitable que la ville prenne une option pour garder les bâtiments du Aurel, puisque la seule pandémie à laquelle nous sommes confrontés a démontré la nécessité de disposer de lieux pour accueillir les enfants en toute sécurité, et cela permettrait dans le futur d'avoir un lieu de rassemblement festif et associatif sur le quartier. Concernant le quartier Lysée, effectivement, il va constituer la plus grande opération du mandat. Si nous ne sommes pas complètement maîtres de toute opération, il me semble que des visites pour les élus, en plus de celles de chantier, devraient avoir lieu régulièrement, éviter ce qui s'est passé sur le chantier Aldi, où on assistait à des scènes surréalistes d'entreprises qui faisaient tomber des pans entiers de blocs de béton, des forages intempestifs qui ont eu des répercussions sur des maisons aux alentours, et tout n'est pas encore remonté à la surface au niveau des fissures. C'est vrai que c'est pas le même contexte que la salle Europa, et en plus il y avait le contexte sanitaire. J'aimerais bien aussi savoir, puisqu'on parle de budget, où est passé le projet de la maison médicale qui aurait été vraiment d'actualité, malheureusement. Je rappelle que nous défendons un centre de santé. Oui, il faut être vigilant sur le quartier Lysée, notamment sur la préservation végétale que Monsieur Villemotte a d'ailleurs souligné, puisque une visite organisée permettrait de faire ces constats, et aussi en matière de végétalisation, peut-être voir ce qui se passe, puisqu'on a malheureusement ces derniers temps, au niveau des différentes informations, assisté à des coupes sauvages, et ce sera vraiment dommage que ça se passe sur le quartier Lysée, où on a encore un peu des choses à dire. Concernant les subventions, on y viendra après. J'étais assez étonnée de constater la disparité entre les différentes secteurs, que ce soit la différence entre la culture et le sport, par exemple, mais c'est le cas pour d'autres associations, où finalement certaines subventions ont été maintenues, alors qu'elles connaissent bien le même contexte, que d'autres qui les voient diminuer. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a une différence de traitement, même si on nous argumente qu'il y a de la trésorerie. Mais bon, j'ai du mal à comprendre les différences qui existent dans ces différentes subventions. Ensuite, sur les problèmes de sécurité, lors du dernier conseil municipal, j'avais alerté sur un certain nombre d'actes de vandalisme et qui continuent à se produire un peu partout dans la ville. Donc je voulais savoir par rapport au budget, bon là c'est quelque chose qui existait, puisque je pense savoir qu'il y a la moitié des effectifs municipaux qui sont absents, enfin qui ne sont pas comblés. Donc qu'allez-vous faire pour remédier à cette situation? Comment faire en sorte de maintenir les effectifs? Parce que bon, je les salue pour le travail qu'ils réalisent, bien qu'ils soient à 50% des effectifs prévus. Mais bon, c'est quand même pas facile, hein. Donc, on assiste en pleine pandémie, et là, on va repartir sur un confinement. Il y a vraiment nécessité d'être vigilant sur ces problèmes de vandalisme et de sécurité. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, puisqu'on en avait quand même déjà discuté lors du débat d'orientation. Merci.
Voilà, merci madame. Je constate que chacun finalement est dans son rôle, et c'est bien ainsi, puisque il est nécessaire que chacun puisse exprimer dans le contexte de la démocratie qui est la nôtre. Je voudrais quand même dire qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Et je pense notamment, Monsieur Somny, à certaines allusions que vous faites, s'agissant notamment de... J'ai lu votre papier, d'ailleurs, qui est une sorte de copier-coller de ce que votre patronne peut distribuer un peu partout dans les différentes institutions dont vous faites partie. Voilà, s'agissant, par exemple, de l'endettement de la commune, eh bien, moi, je vais vous dire une chose, monsieur. Je l'assume. Je l'assume pleinement. Parce que aujourd'hui, lorsque nous faisons une crèche, un restaurant scolaire, lorsque nous avons restauré cette salle, qui est malheureusement pas utilisable aujourd'hui tous les jours, mais qui est très demandée, lorsque nous avons restauré le patrimoine, lorsque nous faisons des équipements médicaux, lorsqu'on restaure les écoles, etc., tout ça, c'est de l'investissement qui ensuite engendre aussi un endettement pour la commune. Eh bien, donc, je l'assume et je le répète et je le répéterai jusqu'à la fin du mandat, puisque vous êtes sur une sorte de fil conducteur dans ce sens-là. Et puis, vous faites allusion aux indemnités. D'abord, j'assume d'être indemnisé puisque je travaille, comme d'ailleurs les collègues adjoints qui travaillent avec moi. J'ai choisi d'abandonner mon travail lorsque j'ai été élu maire il y a 20 ans, répète, et pour votre information, si vous lisez bien votre budget, je crois que ce n'est pas tout à fait le cas, nos indemnités sont identiques depuis 2014. Donc ce que je souhaitais apporter comme réponse à vos remarques qui ne sont que pure démagogie, et je remarque que certes vous brillez par votre absence dans un certain nombre de réunions, mais que vous serez probablement là au moment des élections, puisque votre parti est donc un grand spécialiste de ces moments-là. À Madame Vollmer, juste quelques éléments de réponse sur le Aurel. Il s'agit évidemment pour nous de ne pas laisser partir le bâtiment comme ça. D'abord, nous sommes titulaires donc de la propriété sur le terrain en particulier, donc à travers un bail emphytéotique. Et je pense qu'il est important aujourd'hui donc de voir ce que nous allons en faire et bien évidemment, si nécessaire, réemployer les lieux parce que c'est pour moi quelque chose qui est important. Sur la sécurité également, vous savez que actuellement il nous manque 2 policiers sur 11, et donc ils sont en cours de procédure de recrutement. Il se trouve qu'on a une sorte de concurrence un peu sauvage du côté de la ville voisine qui recrute beaucoup de policiers, et donc mais c'est la loi du genre. En tout cas, nous avons eu récemment donc un rapprochement important avec la police nationale et avec le nouveau directeur départemental de la sécurité publique, Michel Klein, auquel j'ai fait état d'un certain nombre de dysfonctionnements, comme ceux que vous aviez, dont nous avions parlé donc lors du dernier conseil. Et ce sont des irritants, si je puis dire, dans le quartier, avec des dégradations, des choses qui sont déplaisantes. Il m'a assuré donc d'une présence affirmée. Je crois que Montigny est une ville globalement sereine, mais il appartient à notre police municipale, en lien avec la police nationale, de faire respecter le sentiment de sécurité dans les quartiers. Et enfin, vous dire que s'agissant du quartier Élysée. Sur cet éco-quartier, je répète que nous avons été labellisés éco-quartier. Il y avait 220 arbres. Il a fallu malheureusement en abattre quelques-uns trop nombreux, évidemment, pour ma part, mais c'est comme ça, certains étaient malades et d'autres sur un emplacement qui était prévu pour le bâti. Mais nous finirons par par des plantations, et donc après la réalisation, donc nous serons à 554 arbres. Donc nous passerons de 220 à 554 arbres sur le quartier Lysée. J'ai voulu placer cette année sous le signe de l'arbre, parce que symboliquement, je pensais que c'était important, et notamment donc d'essayer de soutenir dans une ville, c'est pas toujours facile, donc les différentes espèces, voilà, nous aurons encore des arbres. Nous en avons planté beaucoup parce que nous avons la forêt nourricière qui a été, je vous conseille d'aller voir, qui est en train d'être aménagée, voilà, je suis très content, très fier de ce travail qui est effectué avec nos services, notamment sur le volet du développement durable. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je crois que Raymond a d'autres précisions à apporter.
Oui, je voudrais juste compléter un petit peu sur la partie financière, parce que nous connaissons vos préoccupations qui reviennent à chaque fois qu'on fait un budget, les impôts, les indemnités et la dette. Or, je complète ce que dit Monsieur le maire tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'endettement, je ne sais pas si vous avez vu dans le budget, le capital, les intérêts ont descendu de 50 000 euros, le capital de 1 341 000 euros, c'est pas rien quand même, et il faut quand même savoir, vous êtes revenu sur 2017. Effectivement, 2018 et 2019 ont été des années à fort endettement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça correspondait à des investissements que nous avons faits, qui correspondaient ici à la salle Europa, à l'église Saint-Joseph, et donc aujourd'hui, à partir de 2020, ça a baissé, puisqu'aujourd'hui, on a pu notamment de grands investissements comme on a eu pour cette période. Or, je pense que dans ces investissements-là, on n'est pas capable d'autofinancer les choses, donc on recourt bien naturellement à l'emprunt. Voilà ce que je voulais dire simplement. Puis, il y a une chose qui m'a surpris, c'est que vous critiquez les 300 000 euros dont j'ai parlé tout à l'heure, qui correspondaient à la crise sanitaire. Je crois qu'on est quand même les garants, nous, les élus, de la santé sanitaire de nos concitoyens. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Je vous remercie.
Merci. Être une ville santé, c'est aussi être une ville qui est proche de ses habitants. Donc, je considère que, par conséquent, nous pouvons aussi être présents sur ce chapitre-là, et notamment dans le domaine de la prévention. C'est très important, notamment au niveau du jeune public. Et nous aurons, je pense, encore à aller plus loin dans les mois, dans les années qui viennent, pour pouvoir justement être à côté de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui sont évidemment, qui seront fragilisés, je pense, plus encore psychologiquement par l'impact de la crise inédite que nous traversons. Alors, il y a une explication de vote, Monsieur Somny, avant de faire passer.
Je ferai pas une explication de vote. Je tiens juste à apporter deux points qui me tiennent à cœur. La première, pour répondre à vous, monsieur, c'est que j'ai pas critiqué le fait d'avoir dépensé 300 000. Quand bien même demain, ça coûterait 1 million, je pense que la santé des Montignens passe avant tout. Donc, c'est pas sur le principe-là. Moi, j'ai mis juste l'accent sur le fait que vous aviez l'air de vous plaindre de faire une dépense complémentaire, alors que quand on gère une commune, on prévoit ce genre de choses. Ça, c'est pour répondre à vous.
Sauf que le Covid, on ne peut pas le prévoir, monsieur. Excusez-moi.
C'est à moi de parler. J'ai pas fini. Merci.
C'est moi qui mène.
Ensuite, pour répondre à vous, monsieur le maire, je vous rappelle qu'il y avait un maire à Levallois-Perret qui lui aussi assumait complètement les dépenses et l'endettement de sa commune. Et on sait très bien comment ça s'est terminé. La dernière des choses, quand vous parlez donc des réunions et des commissions, je respecte également des consignes du gouvernement. Et moi, à la différence de certains, la politique, c'est pas mon métier. Je suis chef d'entreprise et j'ai beaucoup de travail la journée. Donc je respecte les consignes du gouvernement. Je vais pas me mettre en danger au niveau du Covid à rencontrer des gens. J'essaie de faire ça le moins possible. La meilleure preuve en est, c'est que tous les conseils municipaux, par exemple, pour donner un simple exemple, qui sont physiques, j'ai toujours été là et je serai toujours présent.
Un autre acte, et je vous ferai également... Je vous ferai dire quand même que ces allusions ignobles auxquelles vous faites sans cesse référence, ça commence à bien faire, vous voyez. On peut tout me reprocher, monsieur, sauf la malhonnêteté. Alors, je vous saurai gré de ne plus revenir sur ce type d'insinuation odieuse, sinon je me verrai dans l'obligation d'en référer au parquet. Et puis on se verra devant la justice. Si c'est ça que vous attendez, monsieur, vous n'avez pas la parole et vous ne l'avez plus. Ça suffit, vos insinuations. Voilà. Si vous mettez en cause mon honnêteté, je pense que tout le monde ici autour de la table, et allez questionner les gens de Montigny, on peut tout me reprocher sauf ça. Voilà. Il y a une question, il y a une intervention, pardon, j'ai pas vu Christian Vax à ma gauche.
Oui, merci Monsieur le maire. Pour répondre à Madame Vollmer sur deux points. Le premier point, c'est la police municipale. Nous ne sommes pas à moins 50%, nous sommes à moins deux agents. Je voudrais saluer l'arrivée ce matin de Monsieur Guéquière, qui prend ses fonctions donc ce matin, nouveau policier municipal. Évidemment, il va falloir le former, mais il a déjà travaillé ce matin et ça me paraît très important de le saluer ce soir. Deuxième aspect sur cette police municipale, évidemment, nous constatons assez régulièrement des problèmes d'incivilité sur la ville, mais il faut aussi parler des résultats. Avant Noël, une personne qui se trouvait rue des Bénédictines avec de la drogue et une arme blanche a été arrêtée grâce à la police municipale. Ces jours-ci, un faux démarcheur circulant dans les rues du Génie, rue de la Vaquinière, rue Franchet-d'Espéret, montait chez de vieilles personnes et leur demandait de l'argent, soi-disant pour payer un PV parce qu'il n'avait pas d'argent. Ce monsieur, grâce à la police municipale, qui a été alerté, a été arrêté et déféré. Et c'est tous les jours, la police municipale fait un travail énorme pour assurer la sécurité des Montigniens. Je voudrais le saluer. C'est vrai que nous avons des difficultés sur les incivilités, tout simplement parce que la police municipale ne peut pas agir masquée, enfin je veux dire, non pas masquée, mais en civil. Ils sont obligés d'agir en uniforme. Vous comprenez bien que les personnes qui créent des incivilités repèrent immédiatement nos policiers. Et il faut donc que nous ayons une concertation très large avec la police nationale. C'est ce qui est en cours avec le directeur, M. Michel Klein. C'est le premier point, c'est la police municipale. L'autre aspect, c'est la maison médicale. Je suis président de l'association de promotion d'un pôle médical à Montigny depuis 2014. Je vous prie de croire que moi-même et le conseil d'administration de cette association, les collègues médecins, infirmières, kinés, etc., n'ont pas ménagé leurs efforts. Nous avions monté un projet. Ce projet était mené par une entreprise. Cette entreprise, malheureusement, n'a pas pu ou n'a pas souhaité poursuivre le projet parce que nous n'avions pas rempli la maison médicale et donc nous ne pouvions pas, elle ne souhaitait pas commencer la construction. Une autre entreprise a été sollicitée et c'est en cours. Alors, on peut toujours faire la comparaison entre une maison médicale tenue par des libéraux et un centre médical tenu par des salariés. Jusqu'à preuve du contraire, la médecine libérale en France et les professions de santé libérales ont toujours montré leur savoir-faire et elles continuent à le montrer actuellement pendant cette crise Covid. Je vous remercie.
Voilà, j'en profite pour remercier évidemment l'ensemble des professionnels médicaux, paramédicaux, donc pour la part qui prennent dans la lutte contre la pandémie et aussi dans notre ville au service de la population. Deuxièmement, saluer également après Christian Vax donc le travail de la police municipale qui n'a pas à se substituer, je le rappelle, à la police nationale. Voilà, tout simplement, nous sommes complémentaires et nous n'avons pas à nous substituer et néanmoins, bien, ils vivent des situations parfois traumatisante, traumatogène et aussi dangereuse. Et donc, bien souvent, nous demandons la protection fonctionnelle, comme vous le savez, donc pour pouvoir protéger, donc juridiquement, donc et devant la justice, donc nos policiers. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Deux oppositions, trois oppositions. Qui dit mieux? Non. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, donc le budget est adopté. Je vous en remercie.